les grands chantiers de la mobilité.
Véronique Marty, Marc Hughes.
Voilà, je viens d'entendre l'émission concernant le contournement de Morges. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un tunnel comme Neuchâtel? Ça serait beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus cher, mais ça en vaut la peine.
Bonjour, je me posais la question si rendre les transports publics beaucoup moins chers, voire même gratuits, n'était pas une solution.
S'il y a autant de gens qui se déplacent, ne serait-il pas dû simplement au fait que les places de travail ne sont plus proches des citoyens? Donc, prenons plutôt des lieux de travail qui seraient disponibles plus proches des gens.
En ayant effectué des voyages dans de nombreux pays, dont la Chine, qu'est-ce qui se passe? On construit sur la hauteur. Alors, plutôt que de grignoter la nature est en train de diminuer à une vitesse effrayante. Alors, faisons peut-être un deuxième étage sur l'autoroute. Et merci pour votre émission. Au revoir.
Maintenant, je me rends compte que l'automobile va droit dans le mur, dans le sens où nous ne pourrons plus avoir des voitures individuelles comme ça longtemps. Donc, je pense que ce n'est pas une nouvelle autoroute qu'il faut, ça n'est pas de nouvelles voies de circulation. C'est un nouveau mode de pensée, c'est un mode d'agir. Le nombre de personnes à déplacer est toujours plus grand, effectivement, mais une personne, ça prend même pas un demi-mètre carré au sol. Alors, c'est ce demi-mètre carré qu'il faut déplacer, c'est pas tout un ensemble. Au revoir.
La solution, je l'ai. Ça fait 20 ans que je la préconise, mais personne n'y pense. Donc, comme j'ai la solution, si vous la voulez, je vous la donne volontiers au 079-258-47.
Je remarque que l'excès de transport aérien, en particulier pour des courtes distances qui seraient atteignables par train, ça a eu des conséquences défavorables sur le réseau de chemin de fer. Actuellement, il y a des tas de destinations où on ne peut plus aller. Les trains de nuit, c'est en voie de disparition. Pourtant, c'était des très chouettes façons de voyager où on se réveillait le matin, frais et dispo dans un nouveau paysage. Et je remarque aussi que pour le trafic aérien, on est toujours dans ces espèces de trucs bruyants. Et puis qu'il y aurait tout à fait d'autres façons de voyager par les airs. En particulier, j'ai lu qu'en Allemagne, ils utilisent des dirigeables pour les livraisons sur des chantiers qui sont éloignés ou difficiles. Alors pourquoi pas créer des lignes de dirigeables qui pourraient être en plus solaires. Alors ça joindrait l'utile et l'agréable.
Bonjour à tous et merci pour vos nombreux messages en réaction à nos reportages diffusés cette semaine dans Vacarme sur les grands chantiers du transport. Alors le projet de contournement autoroutier de Morges qui vous a fait visiblement beaucoup réagir, les tunnels ferroviaires et routiers du Gothard et la probable extension des infrastructures de l'aéroport de Genève pour ne citer que ces chantiers-là. Il faut développer les infrastructures pour faciliter le déplacement des hommes et des marchandises. Ça c'est le credo des autorités suisses, mais c'est aussi la politique en vigueur dans presque tous les pays industrialisés. Selon les Nations Unies, la mobilité serait, je cite, un moteur du développement humain. Alors la formule est belle, mais est-elle juste? Pourquoi la mobilité est-elle aujourd'hui un attribut de la modernité? La mobilité tout azimut est-ce souhaitable alors même que l'humanité est confrontée à la plus grave crise écologique et climatique de son histoire? Faut-il renforcer encore nos capacités de transport sur route, par rail et dans les airs en investissant des milliards de francs dans des chantiers gigantesques? Ou bien faudrait-il au contraire freiner des quatre fers, limiter nos déplacements, réinvestir dans le local et ralentir fortement notre consommation d'énergie fossile? C'est ce débat que l'on va poursuivre et approfondir ce matin dans les Échos de Vacarme. On écoutera des extraits des reportages de Christophe Canu sur les grands chantiers de la mobilité en Suisse et je questionnerai mes deux invités. En face de moi, à Lausanne, Pierre Desmontet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en géographie économique, chargé de cours aux universités de Genève et de Lausanne, ainsi qu'à l'EPFL, et vous avez fondé, il y a presque 20 ans maintenant, Microgis, société d'études et de conseils. Vous êtes spécialiste du développement territorial. Et puis, en duplex avec nous, depuis les studios de Radio France à Lille, Guillaume Courty, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Lille 2 et chercheur au CNRS, spécialiste de la mobilité. Et vous avez également beaucoup travaillé sur les transports. Alors, votre réaction à tous les deux, au petit florilège de réaction des auditeurs à nos reportages diffusés cette semaine ? Pierre Desmontet.
Oui, alors moi, la première chose que je note, c'est que tout le monde a une solution, tout le monde a un avis. C'est un peu comme le football. On disait que l'Italie a 60 millions de sélectionneurs. La question de la mobilité et de l'aménagement du territoire en général, et là, autant de solutions qu'il y a d'êtres humains qui sont. C'est-à-dire, tout le monde a un avis, tout le monde pense effectivement, et ça touche énormément au cœur. Et puis, on a bien senti dans la manière dont les auditeurs s'attribuaient et s'appropriaient le sujet, à mon sens, le malaise qu'il y a. Parce qu'on se rend bien compte qu'effectivement, à travers ce florilège, que les avis sont très divers. Il y a des gens qui pensent effectivement que ces infrastructures sont bonnes, qu'il faut les développer. Il y a ceux qui pensent qu'il faut les empiler. On a entendu les gens qui parlaient la Chine ou le Japon ont construit en hauteur. On devrait faire la même chose. On sait qu'en Suisse, on est très sujet au référendum et donc plusieurs consultations populaires ont eu lieu sur ce sujet. Et on n'y est pas toujours arrivé, on y arrive même relativement rarement. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on est sur un sujet très contentieux où beaucoup d'avis s'expriment et où finalement, le consensus a quand même beaucoup de peine à se faire. Et puis derrière, il y a le rouleau compresseur, on va dire, de la société actuelle qui fait que pendant ce temps, les choses, effectivement, se développent de plus en plus et que la mobilité se généralise. Un phénomène, effectivement, que les sociétés occidentales vivent maintenant depuis un bon demi-siècle, voire plus, mais en tout cas depuis un bon demi-siècle à l'échelle de nos pays avec un développement qui est extrêmement fort.
Guillaume Courty, vu de France, qu'est-ce que vous pensez ?
Vu de France, la vue est à peu près la même. C'est-à-dire qu'en matière d'équipement, on est depuis maintenant une vingtaine d'années dans une configuration où dès qu'on touche à une route ou à un phénomène de congestion en ayant soi-disant la solution, on emmène avec la solution énormément de dimensions qui sont très très difficiles à combiner. Des dimensions physiques, des dimensions naturelles, des dimensions économiques, des dimensions de sécurité, des dimensions de liberté individuelle, des dimensions écologiques. Et ça, c'est vraiment un phénomène très très nouveau dont le contournement de Morges est un bon cas.
Alors comme d'habitude dans les échos de vacarme, on se rend rapidement sur le terrain avec un premier extrait de reportage sur justement ce fameux contournement autoroutier de Morges. Nous sommes là dans le bois du Grand Sève avec des automobilistes mais qui sont sans leur voiture, qui sont dans le bois pour venir faire du jogging, pour pédaler ou se balader à pied. Certains vont apprendre de la bouche de James Oliver, membre du collectif No Way, que leur forêt préférée va bientôt disparaître pour laisser la place à une portion d'autoroute.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Oh, on filme ?
Non, c'est la radio.
Oh, ben, qu'est-ce que vous faites par là ?
En fait, on fait un sujet sur le... avec James Oliver sur le... dites-le, hein. Allez, je vous laisse le dire.
James Oliver, tu connais pas ?
Non, c'est normal. Non, en fait, j'organise une opposition au contournement de Morges. Au contournement de Morges, la nouvelle bretelle autoroute.
Il va passer par ici ?
Par ici.
Oh, les salauds. Ah non, non. Mais non, la forêt de Boussigny, elle est certifiée. ISO 2015, je crois. Hein. J'ai vu là-bas. Elle est magnifique, cette forêt. Il ne faut pas l'abîmer, quoi. Déjà, on abîme tout, quoi. Hein. Et puis, on s'est fait tellement plaisir quand on vient ici.
C'est un peu le poumon vert de l'Ouest Lausannois, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace vert comme ça qui reste. Donc, voilà, c'est un peu dommage de mettre une autoroute à travers ce lieu.
Pour se déplacer au travail et tout ça, tout le monde a besoin d'une voiture. Maintenant, les familles, ils ont deux, trois voitures. Ils ne sont pas une.
Pourquoi ? Pour faire quoi ?
Vous travaillez dans quel domaine, vous ?
Moi, je suis à la retraite. J'ai travaillé avec lui aussi, comme mécanicien aussi.
Et vous alliez au travail en voiture ?
J'allais au travail en voiture.
Vous faisiez quel trajet ?
Lausanne-Renan. Mais les bouchons, je les connais sur quand je vais à Genève, souvent. Et quand je rentre vers Morges, qu'il y a le plus de bouchons. Pour moi, pour l'avenir, c'est les routes.
Mais non, il faut baisser les prix des transports publics. Mais alors, il y a quelque chose, quoi. Quelque chose qui tombe pas rond. Hein? Oui. Ah, fais-y.
Ah. Oui, c'est cool. C'était mon pote de l'écran. C'était mon pote de l'écran.
Voilà, vif débat donc dans le bois du Grand Sèvre entre ces deux amis sur l'opportunité de construire cette bretelle autoroutière pour contourner la ville de Morges, hein, qui est coupée en deux par l'autoroute A1 et qui est le lieu de bouchons incessants. Alors, le bois ou le bouchon, pas facile de choisir pour ces deux riverains qui sont à la fois finalement automobilistes et attachés à cette forêt, Pierre Desmontaigne.
Ben c'est ça, c'est vraiment la question de l'arbitrage et de la décision politique. Quand on construit une infrastructure, et ça a été dit, on doit sacrifier quelque chose pour un bien qui est escompté. En l'occurrence, dans la situation qui nous occupe, la ville de Morges est traversée depuis une cinquantaine d'années par une autoroute qui était prévue pour 15 à 20 000 véhicules, qui en accueille 4 fois plus à l'heure actuelle, et donc elle étouffe. Et donc vous avez 10 à 15 000 habitants dont la ville est coupée en deux, et qui supportent en cœur, vraiment au cœur de la ville, à 200 mètres des places et des églises, une déchirure autoroutière. Le seul moyen, effectivement, de résoudre ce problème, c'est d'entreprendre un grand travail autour de cette coupure-là. Maintenant, doit-elle passer par en dessus ou doit-elle passer par en dessous, c'est-à-dire sous la forme d'un tunnel comme ça a été dit, hein, c'est une des possibilités. Bah, les choses ont été étudiées. Effectivement, on se dirige maintenant vers une autoroute qui serait sortie de la ville. Et là, il n'y a pas 36 000 solutions. Effectivement, si vous la sortez de la ville, ça veut dire que vous allez la mettre à la campagne. La Suisse a un terrain qui est déjà très, très densément construit. C'est évident que les dernières réserves relativement aisées de construction sont dans les forêts. Et cette forêt de Bossigny qui est magnifique, je la connais. Je me rappelle, il y a 30 ans, avoir participé à un camp de jeunesse dans cette forêt-là. Ça fait mal au cœur. C'est vrai que ça fait mal au cœur, mais il faut bien voir effectivement aussi la possibilité qu'on a de régler un problème qui impacte, comme je l'ai dit à l'heure actuelle, 15 à 20 000 personnes.
On sent que vous seriez plus favorable à faire sauter le bouchon qu'à conserver le bois, non ? Je me trompe ?
Alors, sauter le bouchon, disons, je suis suffisamment versé dans ces questions-là pour ne pas me faire énormément d'illusions. L'idée est de se dire, il suffit de faire deux pistes de plus et puis le bouchon saute. Il sautera pas vraiment, il se déplace. Il faut bien voir que simplement les questions de congestion vont au-delà du simple dimensionnement de l'infrastructure.
Parce qu'on va concrètement dépenser entre 2 et 3 milliards de francs pour des travaux qui ne seront achevés, en tout cas pas avant 2030. Et d'ici là, on estime que le trafic aura augmenté au moins de 30%. Donc finalement, est-ce qu'il y aura un moment où cette nouvelle autoroute ne sera pas saturée?
Non, probablement pas. Probablement pas, ou en tout cas
elle
pas au niveau
d'emblée.
De... Elle le sera d'emblée. Elle le sera d'emblée. Il faut voir, à part ça, comment la technologie va évoluer, la manière de construire les autoroutes peut évoluer, la manière dont les véhicules vont se construire. On sait qu'on a ces fameux véhicules autonomes qui sont en train de venir sur le marché. Dans 15 ans, ils se seront peut-être généralisés, ou en tout cas, il y aura une certaine marge. Il est possible que la société où ces voitures soient connectées entre elles de telle manière à ce qu'elles puissent être plus efficacement distribuées sur le réseau.
Des petites voitures connectées,
plus proches les unes des autres parce qu'elles sont connectées les unes aux autres.
On abandonnera le pilotage.
D'une certaine manière, en tout cas, oui. Et donc, on va pas dire si on reste dans les conditions actuelles, oui, elle sera pratiquement saturée d'entrée. Ceci étant, le but, c'est pas forcément de désaturer la chose. Le but réel de cette bretelle-là, c'est effectivement de soulager les Morgiens.
Guillaume Courty, qu'est-ce que vous pensez de ce débat très suisse, roman et même lausannois? En France, vous avez un immense réseau d'autoroutes. On continue d'en construire. Ça provoque les mêmes débats et les mêmes difficultés à trancher?
On assiste en fonction des programmes à ce qu'on appelle dans le jargon de la sociologie des NIMBY. NIMBY, c'est un acronyme anglo-saxon qui signifie « not in my backyard », à savoir des mobilisations, des protestations qui essayent de mettre en cause un édifice en ayant une rhétorique qui est sur le mode de « ça sera très bien, mais si c'était ailleurs, ça serait encore mieux ». Alors, on a ce type de mobilisation, soit pour ou contre, d'ailleurs, des tracés ferroviaires ou des équipements énergétiques. Là, le cas de Morges est très intéressant parce qu'il montre à quel point toutes ces personnes sont prises en contradiction par leur état de dépendance à l'égard de l'automobile ou des autres équipements qui permettent de se déplacer. Il y a un collectionneur de motos, par exemple, à un moment qui est interrogé, et tout le monde est à la fois un peu conscient du problème, un peu honteux de participer à la densité des bouchons, et en même temps, il y a une femme qui le dit de façon très très un peu dramaturgique, finalement, je préfère sacrifier la forêt, quoi. Parce que sinon, c'est le temps que je perds, c'est la pénibilité de la vie qui devient difficile à gérer. Et là, c'est vraiment très intéressant de voir que tout le monde a ce fil qui le relie au problème, quelle que soit la mobilisation en cours, dont les premières personnes rencontrées ne sont même pas au courant.
C'est ça. Et d'ailleurs, on retrouve ce que vous venez d'expliquer dans des contestations actuelles concernant l'A9, où il est projeté d'élargir les tunnels pour construire une bande d'arrêt d'urgence à l'intérieur. Et là, il y a Pierre Despontet, on a vu cet été des contestations et des oppositions surgir.
Bon, c'est exactement ce que notre interlocuteur lillois vient de dire, c'est qu'on est effectivement dans des infrastructures que tout le monde aime dès lors qu'elles ne sont pas chez soi. C'est-à-dire, d'une certaine manière, dans le cas de Morges, c'est très intéressant. Les Hauts-de-Morges sont évidemment pour qu'un tunnel soit créé sur le tracé actuel, de telle manière à enterrer l'autoroute pour que les Morgiens puissent respirer, mais qu'elle n'aille pas ailleurs. Alors que les Morgiens ou les personnes qui sont à l'heure actuelle dans la région de Morges et dans l'ouest lausannois, très concernés par les charges de trafic énormes qu'ils s'y développent, sont beaucoup plus favorables à la création du contournement parce que ça va les décharger eux. Et c'est effectivement ça. Alors le phénomène effectivement des not in my backyard, des gens c'est un phénomène qui est vraiment très très généralisé et qui se généralise probablement ces 20 ou 30 dernières années parce que on n'arrive plus finalement à imposer l'intérêt public prépondérant comme on a pu pendant les 30 glorieuses, pendant des sociétés qui étaient finalement beaucoup plus normatives où il suffisait dans ce pays-là, par exemple en Suisse, de justifier de l'intérêt général pour imposer par exemple une place d'armes ou une autoroute. Le réseau d'autoroutes tel qu'il s'est construit en Suisse à la fin des années 50 jusqu'au milieu des années 80, s'est finalement construit avec assez peu d'opposition parce qu'on arrivait, le gouvernement, les autorités arrivaient avec cette idée d'intérêt prépondérant et puis ça passait, ça ne passe plus.
Vous parliez des politiques qui, à une époque, proposaient des solutions qui étaient plus largement et plus facilement acceptées. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas un peu timorés? Est-ce qu'ils n'ont pas du mal à introduire des dimensions évidentes comme la crise climatique et écologique et à laisser finalement des débats, ou des citoyens se débattre dans leurs propres contradictions? Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Courty?
C'est une question extraordinairement compliquée. Que de pouvoir faire état de comme ça assez rapidement des transformations que les politiques nous montrent. Ce qui est, pour aller vite si vous voulez, assez symptomatique, c'est que on a désormais ce qu'on appelait très classiquement il y a encore un siècle des politiques de travaux publics. On a désormais une configuration très très complexe dans laquelle ces politiques doivent être à la fois rationnelles, à peu près justes pour le plus grand nombre et relativement durables. Ce qui fait que ça c'est un environnement mental qui n'existait absolument pas quand on faisait de la politique de travaux publics. Si vous voyez les politiques de réseau ferroviaire ou les premières politiques autoroutières, il n'y a pratiquement aucun souci de paysage, de respect de la nature, d'écosystèmes et autres. On trace, on coupe et après ça, ça circule. Là, aujourd'hui, on a toutes ces dimensions qui sont relativement difficiles à combiner et à arbitrer. Ce qui fait qu'on peut dire que c'est une faiblesse des politiques, mais c'est aussi une équation à tellement de dimensions qu'elle en devient extraordinairement difficile à solutionner.
Oui, c'est tout à fait exact. Effectivement, à un moment donné où l'intérêt prépondérant d'une infrastructure, c'était de dire effectivement, il faut que ça puisse circuler et donc ça prime sur tout le reste. Et c'est vrai que les autoroutes qui ont été construites dans les années 60, elles passent à travers Morges typiquement. Dans les années 70 en Suisse, elles commencent à passer un peu plus en tunnel. Les dernières qui ont été inaugurées dans ce pays il y a une dizaine d'années pour les grands axes sont pratiquement entièrement enterrées. Et ça, c'est effectivement l'effet de l'acceptabilité qui diminue finalement par rapport à la société de subir les nuisances d'une infrastructure comme celle-ci. Et ça, évidemment, ça se traduit aussi sur la facture, c'est-à-dire que c'est devenu infiniment plus cher.
Alors en Suisse, l'un des prochains grands chantiers concernant la circulation automobile, c'est la rénovation du tunnel routier du Gotthard. Certains proposent qu'avant de démarrer ces travaux de rénovation du tube actuel, on construise un deuxième tube pour éviter de couper le Tessin. Pas question, répondent une partie des riverains. Je vous propose une petite visite du vieux tunnel vétuste et peu sécurisé.
Il nous salue maintenant.
Nous vous souhaitons la bienvenue dans le tunnel autoroutier du Saint-Gothard. Veuillez rester branché sur cette fréquence qui vous permettra d'entendre les informations importantes de la police. Observez la signalisation pour les issues de secours. En cas d'accident, des abris de protection aérés se trouvent tous les 250 mètres. Nous vous souhaitons bonne route.
C'est un défilé incessant de camions là.
Il y a un défilé de presque 3000 camions par jour.
Ici?
Ouais. Ils doivent tout passer par là pour être contrôlés.
Qu'est-ce qu'on contrôle ici en fait?
On contrôle si les poids lourds peuvent passer sur le Gotthard.
Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils puissent passer?
Ils ne doivent pas être trop vieux ou avoir des dommages. Ça, on contrôle ici.
Chaque camion est systématiquement contrôlé.
Parfois, il contrôle, parfois, il contrôle pas.
C'est au hasard.
Oui.
Et là, après, alors, qu'est-ce qu'ils font, ces camions, une fois qu'ils ont été contrôlés?
Ils continuent vers l'Italie. C'est surtout du transit. 70% des camions, ils font que le transit. Ils vont en Italie.
Laissez-moi passer, Robin Leduc, dans les Échos de Vacarme, consacré ce dimanche au grand chantier de la mobilité. Alors après la route, on s'intéresse au rail, et grâce à ce reportage de Christophe Canu, on va retourner dans le massif du Saint-Gothard. Avec tous ces tunnels, cette énorme montagne commence franchement à ressembler à une meule d'Emmental. On a commencé à y faire des trous en 1872 avec le percement du premier tunnel ferroviaire. Le deuxième tunnel consacré au train sera inauguré en juin prochain. Il traverse la montagne à sa base sur 57 km, record du monde battu. Il aura fallu quand même 10 ans de travaux et 10 milliards de francs. Est-ce que le jeu en valait la chandelle? Avant d'en débattre avec mes deux invités, reportage à l'intérieur du tunnel.
À partir de maintenant, ce serait le port du casque nécessaire, en tout cas jusqu'au train, puis après.
Ok.
Il y a quand même un souci de sécurité, hein. On doit quand même faire attention à ce qu'il y ait un minimum de risque pris. Ah bah voilà, notre responsable de la sécurité. Allô, lieutenant. Oh,
je peux bien faire passer.
Ja? Ja.
Okay. Hallo.
Du kannst noch, schnell noch vorbeikommen?
Ja.
Also in der Salle?
Jetzt komme ich rein, ja?
Ja, ja. Okay. Super. Ich muss noch zwei, drei Sachen noch sagen. Aber voilà, on est sur la place d'installation ici, dans la plaine uranaise, juste avant le village d'Erstfeld. Et puis on a en face de nous le Bristen qui culmine à 3000 mètres d'altitude. Et le tunnel de base du Gothard passe exactement en dessous. Donc on va se retrouver avec environ 2200 mètres de roche au-dessus de nos têtes.
Et l'ancienne ligne?
Et l'ancienne ligne, alors elle passe à 1150 mètres d'altitude, alors que le tunnel de base que l'on est en train de terminer passe à un point culminant à 550 mètres, à environ l'altitude de la ville de Berne. Ce qui veut dire qu'on traverse les Alpes en fait à une altitude de plaine, ce qui est en fait la raison d'être de cette infrastructure, de ce tunnel de base du Gothard.
Et ça représente quoi pour vous le Gothard?
Un accomplissement de ce que l'homme peut faire?
Ah, c'est l'accomplissement d'un énorme projet et... Ça me permettra d'aller beaucoup plus vite à Berne.
Parce que vous venez de quel endroit?
Alors, j'habite à côté de Lugano et je suis souvent à Berne. Ça fait que pour un aller-retour à Berne, ça me fait gagner un peu plus de 2 heures. Et l'autre avantage de la galerie de base, c'est l'économie d'énergie pour les trains lourds, vu que ça fait une ligne qui est quasi plate. On y gagnera beaucoup sur la durée.
Vous savez combien ça coûte un chantier comme cela?
Faudrait demander à Nicolas, lui sera plus à même d'y répondre.
Alors, le tunnel de base du Gotthard a été prévu à quelques 8 milliards et demi, 9 milliards. Et maintenant, effectivement, il y a eu une adaptation des coûts. C'est l'évolution, en fait, sur une telle fenêtre de temps.
Donc 9 milliards à l'époque, on en a combien aujourd'hui?
On arrivera à 10 milliards.
Voilà, 10 milliards de francs, c'est cher, mais sur le plan technique, c'est quand même une réussite fantastique. Est-ce que c'est une construction utile, Guillaume Courty? Je rappelle que vous êtes spécialiste de la mobilité, prof de sciences politiques à Lille 2 et chercheur au CNRS. Quel est votre avis?
En matière d'offres ferroviaires, que ce soit des exploits comme celui du nouveau tunnel ou les exploits des 20 dernières années, sur les premières lignes à très grande vitesse, l'utilité, elle a dépassé toutes les espérances politiques qui étaient projetées dans les années 70. Et c'est vraiment le phénomène que je retiens, que je trouve le plus marquant, à savoir que là, si on a des dossiers d'infrastructures qu'il faut refaire, c'est parce que la première offre d'infrastructures a généré une demande qui a fait exploser tous les compteurs. Là, on est dans le cadre d'un tunnel, mais si on prend la ligne à très grande vitesse de Paris-Lyon, la première ligne TGV en Europe, personne n'avait prévu qu'elle soit usée au bout de 20 ans. Et il a fallu la refaire parce qu'elle a généré un tel trafic que son taux d'érosion, si on peut dire, a dépassé la vitesse prévue. Il y a deux mots-clés qui reviennent dans les entretiens et qui sont très très symptomatiques de cette utilité, c'est vitesse, sécurité. Et quand vous avez le gain de vitesse espéré avec notre seuil de tolérance qui est aujourd'hui très très bas en matière de sécurité, que ce soit sur le chantier, là on a cet ingénieur qui a cette phrase extraordinaire qui dit « il y a quand même un souci de sécurité ici », avec ces deux mots-clés, vitesse, sécurité, on comprend pourquoi on a des doublons qu'on voit assez fréquemment dans nos paysages, des doubles ponts, un vieux pont de chemin de fer avec le neuf, autoroutier et autres, des doubles infrastructures qui sont vraiment l'objectivation des deux histoires du transport. Une première offre de structure avec un premier usage très automobile, très aujourd'hui dépassé, et aujourd'hui un usage de la vitesse sécurisée.
Alors quand même, sur la sécurité dans le chantier de construction du tunnel de base du Gotthard, il y a quand même eu 8 morts, hein, donc c'est un bilan qui est pas nul. Quand vous parlez d'utilité, finalement on gagne du temps et de la sécurité, globalement, ok, on comprend. Mais à quoi ça sert de gagner du temps? Finalement, cet ingénieur qui dit « je vais gagner 2 heures sur ma liaison régulière Berne-Lugano », qu'est-ce qu'on cherche, nous les humains, à gagner du temps? Du temps sur quoi? Du temps pourquoi?
Nous, on ne cherche rien, mais on est tellement sous l'injonction d'être mobile, de devoir être efficace, d'être rentable, rationnel. Et cette injonction nous arrive à peu près à tous les moments de notre vie avec des formes différentes, que ce soit à l'école où les enfants ont des semaines qui excèdent parfois la semaine d'un travailleur, que ce soit après ça dans notre vie au travail, que ce soit dans notre retraite, dans l'entretien mené dans cette forêt. Une des femmes dit que grâce à sa voiture, elle peut voir plus de musées qu'elle n'en verrait si elle était obligée de prendre le train. Nous sommes des condensés de cette injonction et on s'y soumet, comme on se soumet à un tas d'autres pans de l'idéologie néolibérale.
Pierre Desmontet, vous avez l'impression de vous soumettre à l'impératif d'efficacité, de gain de temps, de rapidité?
Ben, je pense pas en fait qu'on gagne du temps. Alors d'une part, oui, on est dans une société qui, quoi qu'on en dise, reste très normative. Il y a des codes qui veulent que, par exemple, on travaille, que ces travaux... on est dans une société suisse avec une économie très avancée qui fait que les postes de travail deviennent de plus en plus spécialisés, de plus en plus rares aussi pour la spécialité que vous occupez, ce qui fait qu'il y a plus de chances qu'elle soit beaucoup plus loin de votre domicile qu'auparavant. Et puis les évolutions sociétales font que dans les familles, on a généralement maintenant 2 salaires, 2 personnes qui travaillent, pas au même endroit, pas avec les mêmes horaires. Et donc tout ça pousse vers la mobilité. Ceci étant, pour revenir à ce qui était dit avant, on cherche pas à gagner du temps. Ce qu'on gagne quand on a des gains de temps avec une infrastructure comme celle-ci, et ça a été dit très nettement, on gagne de l'espace. L'idée, et ça on l'a vu par exemple sur Paris-Orléans,
c'est-à-dire de l'espace.
On gagne de l'espace, c'est-à-dire que les gens ne vont pas chercher à passer moins de temps dans les transports, ils vont se servir du temps qu'ils ont pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir aller résider à un autre endroit. Ce qui va se passer sur Lugano-Zurich, c'est que vous allez avoir des Zurichois qui déménagent à Lugano parce que c'est devenu accessible d'aller à Zurich chaque matin et d'en rentrer le soir avec ce nouveau train, parce qu'on va gagner effectivement. Là, oui, Lugano sera à peine à plus d'une heure de Zurich. Hein,
d'accord, mais de l'espace, mais aussi du temps. La personne qui fait son Lugano-Berne, il ne dit pas qu'il va déménager, il dit « Ah, je gagnerai 2 heures ».
Oui, il va gagner 2 heures, donc il va aller à Berne beaucoup plus souvent. Et dans le cadre, d'une certaine manière, quand on a vu sur Paris-Orléans avec le TGV, et ça c'était l'effet déstructurant, restructurant d'une infrastructure comme celle-ci sur l'espace, c'est que brusquement, les Orléanais pouvaient se dire « Tiens, je peux aller travailler à Paris sans avoir à déménager dans la région parisienne. » Et alors des phénomènes comme celui-ci, sur la ligne du Gotthard, sur Zurich-Lugano, quand on sait l'attrait qu'a la Riviera tessinoise pour les gens des nord des Alpes, notamment pour les Suisses alémaniques, alors on va effectivement voir des choses. Au-delà du fait que cette ligne, ça reste le trajet le plus court entre l'Europe rhénane et la plaine du Pô, et donc économiquement, effectivement, elle va être extrêmement intéressante.
C'est pas répondu à ma question. Vous répondez, vous, personnellement, à l'injonction de mobilité, comme nous tous ?
Oui, d'une certaine manière, on peut évidemment faire le choix individuel de ne pas s'y soumettre, de décider de sortir de ça, mais ça reste un choix qui est très minoritaire, et l'immense majorité de la population, en fait, se soumet effectivement à cette injonction, se soumet finalement à des choses, j'aurais tendance à exprimer ça de manière un peu différente, c'est est-ce qu'il y a des feux rouges ou des feux verts vers plus de mobilité ? Et toutes les évolutions sociétales de ces 20 ou 30 dernières années montrent que des feux verts, d'une certaine manière. Comme je l'ai dit, la généralisation du double salaire dans les familles, la spécialisation de l'économie, dans un pays comme la Suisse, la crise du logement qui fait qu'il est très difficile de déménager une fois que vous avez un logement dans une métropole, vous le gardez. Si le fait que l'emploi est devenu de plus en plus flexible, vous n'entrez plus à l'usine à 16 ans pour en sortir à 64 ans, et donc vous ne pouvez plus optimiser votre logement par rapport à votre lieu de travail, parce que votre lieu de travail, vous ne savez pas dans 5 ans où il va se trouver. Toutes ces choses poussent à une mobilité de plus en plus forte, et les statistiques d'ailleurs sont absolument claires sur ce sujet. On est dans une société qui est de plus en plus mobile, et c'est un rouleau compresseur. C'est vraiment un paquebot qui avance et qui nous amène vers ça. Vers où ? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas futurologue. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est qu'on y va.
Bon, et est-ce que c'est un des avatars de la société productiviste ? On produit plus de tunnels, plus d'autoroutes, plus de rails, plus d'avions, parce qu'il faut produire plus, et puis que c'est le moteur de notre société.
Ouais, mais même avec une société qui vire maintenant de plus en plus dans un pays comme la Suisse vers une société du savoir, finalement, on produit, nous, de moins en moins, si ce n'est qu'on produit de plus en plus de la connaissance, et malgré ça, on pourrait se dire que le télétravail, que les formes de dématérialisation du travail pourraient arrêter ça. En fait, on se rend compte que, non, en tout cas, pour l'instant, on le voit pas.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème pour ces grandes infrastructures, comme on l'a évoqué pour le contournement de Berne, le tunnel ferroviaire du Gotthard, conçu suite à une votation du peuple suisse en 1994, il y a plus de 20 ans, est-ce qu'il va correspondre quand il va entrer en service, ou est-ce qu'on est déjà à côté de la plaque ?
C'est une excellente question. On aurait tendance à dire, c'est sûr, le réseau autoroutier suisse, par exemple, il a été conçu sur une carte en 1955. Par quelques ingénieurs qui se sont dit, il faut passer. Le réseau ferroviaire actuel, avec le fameux projet Rail 2000 d'accélération des cadences, c'est dans un buffet de la gare, au milieu des années 80, qu'il a été conçu. On est toujours en train de courir après le présent, d'une certaine manière. Surtout dans des projets infrastructurels, surtout dans un pays comme la Suisse, où on peut pas, par le fait du prince, décider en 3 ans, on met l'infrastructure et elle est là. Chez nous, ça prend 20 ou 30 ans, et donc nous, on est toujours en train de courir après, ce d'autant plus que le pays connaît une des plus fortes croissances démographiques et économiques d'Europe. C'est-à-dire qu'on a gagné 1 million d'habitants sur les 8 qu'on est en à peine 12 ans. Hein. Et donc, c'est clair qu'on est tout le temps en train de courir. C'est vrai. Bon, c'est un problème de riches en même temps.
Guillaume Courty, l'idée de mobilité que vous mettez en question, tout à l'heure, là, vous disiez vraiment, on est mené par le bout du nez par cette idée qui nous paraît à tous évidente. Elle vient d'où ? Elle a été créée, mise en avant par quel mécanisme ? C'était pas le cas il y a un siècle. Là, il n'y avait pas de la mobilité tout azimut dans la tête de tout le monde.
Non, ce que les spécialistes appellent le tournant mobilitaire date de à peu près la fin des années 60, début des années 70. C'est à la fois un tournant linguistique, c'est-à-dire qu'on a renommé de vieux problèmes avec ce mot nouveau, Et en plus, on l'a gardé au singulier en mettant, on met toujours avec mes collègues une majuscule pour bien montrer que quand on dit la mobilité, on parle d'énormément de phénomènes en même temps. Et très très souvent, moi je suis surpris quand je mène des entretiens, les personnes en parlent et je ne sais absolument pas de quoi ils parlent. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il est évident que dans notre société, il faut absolument être mobile. Et là, il faut un temps d'arrêt et leur dire, mais vous parlez de quoi ? Ça veut dire quoi être mobile ? C'est changer de région pour travailler entre son domicile et son travail ? Ça, c'est extraordinairement rare. Et donc, ce qu'on assiste avec ce tournant mobilitaire, c'est une conversion des élites dans la mobilité, et une conversion très étrange, c'est qu'ils veulent pour tout le monde ce qui était l'apanage des plus rares, et ce qui est encore l'apanage des plus rares. Je suis à la fois d'accord avec mon collègue géographe sur le fait que nous sommes dans des sociétés où il y a un accroissement énorme de la mobilité, mais en même temps, il faut bien voir que cet accroissement est très très inégalement distribué dans notre société. Les hommes sont plus mobiles que les femmes, les urbains sont 10 fois plus mobiles, etc., en fonction des catégories socio-professionnelles. Et donc, ce qui est très très étonnant, c'est de voir qu'on projette ce qui est a priori une caractéristique des élites sur les populations en disant c'est votre avenir et c'est pour votre bien.
Vous écoutez les Échos de Vacarme, je vous propose à ce stade de l'émission de prendre un peu de hauteur avec Jamie Cullum.
Voilà monsieur, nous sommes arrivés à Genève, aéroport Paintrin, il est 17h05 et la température est de 18 degrés. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse. Every day you live a life so full of hope. Shouldn't drag your soul around you like a length of rope. You remember everything you thought your life would be. Well, it's falling through the cracks of ancient history.
Au toit de l'aéroport. Alors,
demander d'être prudent. C'est pas forcément une zone qui est dédiée à la promenade. Mais voilà, de là, on voit bien à quoi ressemble notre plateforme. Voilà, voilà, on assiste au décollage de l'A332 Suisse. On a un avion qui est en train de rouler, qui prend de la vitesse et puis qui va maintenant faire sa rotation. Ça y est, il a décollé et cet avion, dans 8 heures, il est à New York.
Salut, moi c'est Nina.
Salut, moi c'est Théo.
Ce matin, on a pris l'avion à l'aéroport de Genève et on va vous raconter cette expérience.
Alors, vous êtes prêts ?
C'est parti.
Waouh ! C'est grand !
Oui, l'aéroport a une superficie totale de 340 hectares ou 485 terrains de foot si tu préfères.
Et tous ces guichets ?
Normal, il y a plus de 50 compagnies d'aviation qui font voyager 15 millions de personnes chaque année.
C'est grand quand même.
Eh oui, Genève Aéroport est un grand aéroport mais à taille humaine. Et c'est ce qui fait qu'on s'y sent bien. Chaque semaine, il y a plus de 1000 départs pour plein de destinations. En Europe, en Amérique du Nord, Afrique et Moyen-Orient.
Voilà, alors même si la communication audiovisuelle de l'aéroport de Genève n'a pas vraiment décollé, son trafic aérien, lui, est en augmentation constante. Il a doublé ces 15 dernières années. Cointrain a accueilli en 2014 15 millions de passagers et il devrait en accueillir 25 millions en 2030. Pierre Desmontet, je rappelle que vous êtes géographe spécialiste du développement territorial. Comment on peut expliquer ce succès fulgurant de l'aéroport de Genève ?
C'est-à-dire qu'en fait, c'est le succès de la métropole lémanique et de l'affirmation économique de cet endroit qui peut expliquer le décollage de Genève en même temps que la présence et l'existence de l'aéroport international de Genève est une condition absolument nécessaire à ce développement-là. Il se trouve que, contrairement, disons, en comparaison avec des métropoles de taille similaire, nous sommes extrêmement bien dotés en aéroport puisque, comme on l'a dit, il est intercontinental. Il dessert l'Amérique du Nord, il dessert le Moyen-Orient, qui est très important, il dessert la Russie, et donc il permet d'une certaine manière à la métropole lémanique d'avoir une position centrale dans le réseau de ces communications, qui est sans commune mesure avec le fait de, avec sa simple taille, c'est une petite métropole. La métropole lémanique, à peine plus d'un million d'habitants, vous en trouvez des dizaines en Europe de cette taille-là, mais pratiquement aucune qui bénéficie d'autant de chances en termes de liaison avec le monde extérieur. Or, la mondialisation, les 20 dernières années, en termes économiques, c'est l'idée de la mondialisation, de la standardisation des relations. Et là, la région lémanique a un avantage concurrentiel gigantesque. Et on le voit effectivement à travers l'explosion des chiffres de fréquentation.
Juste quelques mots sur cette spécificité. EasyJet, 42% de l'activité. Donc, c'est du low cost qui a redonné un élan à l'aéroport de Genève.
Alors, c'est vrai qu'il y a 20 ans, si vous vous souvenez bien, on a coupé, la compagnie aérienne nationale à l'époque Swissair a coupé ses relations avec Genève et l'a finalement relégué au statut d'aéroport régional qui était finalement celui qui correspondait à sa taille. EasyJet a effectivement permis de remettre l'aéroport sur la carte, mais ce qui est beaucoup plus significatif que les simples chiffres EasyJet, c'est effectivement le fait que finalement les grands gros porteurs sont revenus à Genève pour faire de l'intercontinental. Et ça, c'est effectivement parce que là, on est dans une clientèle mondialisée. Finalement, on cherche pas tellement les touristes, ce qu'on va chercher, c'est les hommes d'affaires, c'est la jet set, c'est les gens qui sont actifs, la petite couche de la société mondialisée qui est active à l'échelle du monde et alors qui, elle, a absolument besoin de ces relations-là. Et d'une certaine manière, bien sûr, EasyJet amène énormément de trafic, permet effectivement de financer énormément d'infrastructures, mais ce qui compte pour la métropole, c'est plutôt les liaisons sur le Canada, les États-Unis et les Émirats.
Ceci dit, EasyJet, quand il propose une liaison pour Manchester, c'est pas du tourisme estival, c'est aussi pour les hommes d'affaires. Alors, on a enregistré le dernier week-end de juillet, je ne sais pas si vous avez noté ça, 108 000 vacanciers sur le samedi et le dimanche. C'est un record, ça représente une hausse de 6% du trafic voyageur annuel. Avec cette intensification du trafic, forcément, on débouchera à un moment ou un autre sur la construction de nouvelles infrastructures et peut-être à court terme, une intensification du trafic dans certains créneaux horaires. Je vous propose d'écouter le petit reportage de Christophe Canu, réalisé au domicile de riverains de l'aéroport de Genève-Cointrain.
Alors vous êtes Jean-François Bouvier, vous êtes le président de l'association des intérêts de Vernier Village. Et puis il y a aussi en face de vous Christina Messner qui est membre de l'association. Et c'est chez vous qu'on se trouve actuellement à Vernier. Effectivement, on les entend les avions de votre terrasse, Christina Messner.
On les entend la journée
et on ne veut pas les entendre davantage la nuit. Raison pour laquelle nous avons entamé toute une série d'actions, dont cette pétition, pour qu'on limite entre 23h et 6h qu'il y ait une fermeture, qu'il n'y ait pas de vols commerciaux.
Vous habitez aussi Vernier ?
Alors je suis né au village de Vernier, et bien sûr que je les entends, tout comme Christina, les 30 000 personnes qui, tous les jours à Genève, sont dérangées par les nuisances de l'aéroport. Pour quelle raison vouloir aller encore au-delà de cette limite ? Ça veut dire, en augmentant de 10 millions de passagers par année, on voit bien que la fréquence des avions arrivera à un mouvement toutes les 90 secondes et il y aura encore plusieurs milliers d'habitants supplémentaires qui seront impactés.
On va avoir le droit comme ça à des avions toutes les 90 secondes ?
Ce sont les chiffres qui sont avancés par l'aéroport de Genève-Cointrin.
Guillaume Courty, je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques, spécialiste de la mobilité, et vous enseignez à Lille 2 et vous êtes chercheur au CNRS. Vous produisez, on l'a bien compris dans cette émission, une critique assez radicale de la mobilité tout azimut. Personnellement, comment est-ce que vous gérez vos déplacements ? Est-ce que vous utilisez l'avion ?
Oui, bien sûr, je suis un homme du 21e siècle. Donc demain matin, je pars à Montréal. Aujourd'hui, je suis en duplex de Lille pour parler à la Suisse. Et donc, tout est... En moi, la somme des contradictions, non pas que je dénonce, mais j'essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'on y est soumis. Alors là, on est sur l'aérien, c'est vraiment un des cas les plus marquants de possibilités offertes d'user de notre liberté à travers le monde. Et vous avez une des traductions les plus marquantes de ces NIMBY dont on a parlé tout à l'heure pour les constructions autoroutières, là avec les aéroports et les mobilisations contre le bruit et la pollution, puisqu'il y a les deux phénomènes qui sont quand même très très embarrassants. Mobilisations qui ont eu lieu de façon assez véhémente au départ en Angleterre, qui se sont baptisées des No-Flight Movement, et qu'on a revu après ça en Espagne, autour de Barcelone, à Schiphol, à Amsterdam, et en France, avec la couronne qui fait les couloirs d'atterrissage et de décollage de Roissy en fonction du vent. Donc là, à Genève, vous trouvez un phénomène qui est aussi une autre démonstration des NIMBY liée à l'intensification du trafic.
Et puis en France, vous avez cette lutte très déterminée, très radicale contre le projet de nouvel aéroport du Grand Ouest près de Nantes, à Notre-Dame-des-Landes. Vous avez vu, Guillaume Courty, c'était mercredi, cet appel lancé par une centaine de personnalités issues de différents pays pour en finir avec les crimes climatiques. Donc c'est des scientifiques, des politiques, des artistes qui ne veulent plus s'en remettre au sommet étatique sur le climat, qui disent que ces sommets n'accouchent que de souris, et ils en appellent à une mobilisation, ils disent même une insurrection citoyenne, avec ce mot d'ordre, forcer les États et les industriels à laisser les énergies fossiles dans le sol. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est un nouveau pas fait dans ces mobilisations et dans ces dialogues quasiment impossibles entre pouvoir public et certains espaces de scientifiques et certains espaces locaux qui trouvent absolument insupportables les conditions de vie qu'on leur réserve, avec en effet un avion qui passe au-dessus d'eux toutes les X secondes. Mais vous avez en phénomène émergent les mêmes mobilisations autour de la qualité de l'air qui commencent à apparaître dans des zones où la qualité de l'air est absolument, en effet, aujourd'hui... de plus en plus sujette à caution.
Là, on va plus loin. C'est un appel contre le dérèglement du climat. Il faut sauver la planète et finalement arrêter de voyager. Si on lit l'appel au deuxième degré, c'est stop à la mobilité.
Oui, ça renvoie aussi à d'autres mobilisations autour de la déclinaison du slow. C'est là une mobilisation assez radicale qui appelle à l'arrêt, mais vous avez aussi toute cette mouvance sur le ralentissement, sur l'inutilité de ces déplacements à travers le globe pour de la futilité, dit-on. Mais j'en reviens à mon point, c'est de montrer qu'on est dans des mobilisations. Ils essayent d'enrôler autour d'eux de nouveaux soutiens, de convaincre des personnes pour une sorte de piqûre d'électrochoc, de faire comprendre au pouvoir public qu'on peut parfaitement avoir d'autres formules que celle qui est prônée partout.
Pierre Desmontet, vous volez, vous, fréquemment, dans l'année ?
Fréquemment, non, mais je vole, oui, tout à fait. J'ai pas de problème, disons, éthique. Alors, je fais pas partie d'un mouvement qui aurait tendance à culpabiliser parce qu'ils volent. À part ça, je suis un grand mobile, hein. J'habite à Yverdon-les-Bains. Je travaille à 37 km de l'endroit où je réside. Je fais vraiment, j'ai une vie de métropolitain avec la formation de métropolitain, le type de métier de métropolitain, l'organisation familiale d'une certaine manière de ça. Et c'est effectivement une organisation qui est consommatrice et qui, même si on fait des efforts, même si il y a plein de voyants et de possibilités pour une personne de réduire, disons, son impact, c'est effectivement le privilège de la richesse et de l'opulence de la société dans laquelle je vis qui me permet effectivement de vivre comme ça. Donc oui, je profite beaucoup de cette liberté, mais qui est une liberté, à part ça, relativement fondamentale. On parlait avant, la mobilité est relativement récente. Non, avant, on n'avait pas de mobilité quotidienne. On sautait pas dans des avions ou dans des trains à tout bout de champ. Par contre, on déménageait énormément. On changeait de continent. On partait de chez soi pour aller s'installer ailleurs lorsque les conditions économiques ne permettaient plus de rester chez soi. Et d'ailleurs, j'estime que ce qu'on voit entre la Méditerranée et l'Europe cet été, c'est une condition finalement à peu près du même manière. C'est-à-dire que la mobilité, c'est aussi une solution aux problèmes que peuvent rencontrer certains États. Et à ce titre-là, le Moyen-Âge, l'époque moderne, ont été de grandes époques d'immenses migrations et d'immenses mobilités, mais simplement pas de la même manière.
Mais COP21 va probablement accoucher de pas grand-chose. Les discussions préparatoires montrent que les mesures sur lesquelles les États vont se mettre d'accord, ça sera pas moins de 2 degrés de réchauffement. On va vers plus, et donc dans le mur. Donc soyons libres et faisons sauter la planète.
Je dirais pas ça. On va dans le mur, c'est-à-dire que donc déconstruisons le mur. J'aurais tendance à dire, c'est vrai que depuis 20 ou 30 ans, on n'arrive pas à corriger ou à arrêter ou à modérer finalement notre consommation d'énergie fossile ou les rejets qu'on a. Même si on y arrivait en Occident, il y a toute une série de pays qui sont en train d'émerger et auxquels on est en train de dire, vous ne devez pas avoir le même modèle qui nous a permis, nous, de nous développer. Donc il y a un problème éthique là qui est quand même très très important. Par contre, évidemment, vous me direz, c'est très très positiviste comme attitude, mais je crois à la résilience des sociétés humaines et à leur capacité d'adaptation. Je pense qu'on doit préparer l'adaptation au monde que nous sommes en train d'effectivement de préparer, qui est un monde à 3 ou 4 degrés de plus en 2100.
Alors, en guise de conclusion, Guillaume Courty, vous êtes d'accord pour vous remonter les manches et déconstruire le mur ? Vous mettez quel sens derrière la formule de Pierre Desmontet ?
Déconstruire est en effet une possibilité largement invoquée dans les sciences sociales. Bon, je vous donnerai deux exemples de déconstruction, ou en tout cas de cas historiques qui, pour moi, sont assez symptomatiques des solutions possibles. Premier exemple, c'est, j'en reviens au TGV, il est électrique. Il avait été conçu pour être avec une turbine d'avion. Et puis le premier choc pétrolier est arrivé et la solution a été absolument inutilisable. Donc, quelque chose qui était considéré comme absolument formaté, maquetté, prévu, budgété, en un tour de main a été refabriqué, repensé. Donc on peut parfaitement le faire. Le deuxième exemple, c'est un exemple que j'ai tiré d'une expérience avec une agence européenne qui s'appelle Eurocontrol, qui s'occupe de la simulation de vol et de la régulation du trafic. Et les motoristes d'avions, pour la première fois, on leur a demandé de faire des moteurs qui ne polluaient plus et qui ne faisaient plus de bruit. Et leur réponse, ça n'a pas été de dire « mais non, c'est impossible ». Ils ont dit « ben oui, il fallait peut-être nous demander plus tôt ». Alors, évidemment, leurs moteurs vont toujours avoir un volume sonore et un taux de pollution. Mais on peut aussi peut-être s'apercevoir que quand on ne regarde pas les différentes facettes d'un problème et quand on reste omnubilé par un mot-code qui s'appelle la mobilité, on ne trouve pas de solution. C'est ça la déconstruction.
Bon, eh ben, on va se quitter sur ces deux professions de foi que vous partagez, hein, résilience, capacité de résilience des sociétés, et puis donc cette grande confiance dans la technologie produite par les humains. Je vous remercie tous les deux, Guillaume Courty et Pierre Desmontet, d'être venus dans les Échos de Vacarme, et je vous souhaite un excellent dimanche.
À vous aussi, merci.
Ceux et celles qui ont contribué à cette émission, Christophe Canu, Jean-Daniel Mottet, Bruno Seriba, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux et Stéphanie Jovanovic. À partir de lundi 13h, une nouvelle série de reportages consacrée à la retraite dans Vacarme, une série de Muriel Mera que nous vous proposerons dans le cadre de la grande opération de la RTS, Travailler en Suisse, le paradis ? Point d'interrogation. D'ici là, reposez-vous bien, passez un excellent dimanche à l'écoute de la première sur laquelle il est maintenant 10h.